connaissez les faiblesses.
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, cet entretien, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non ?
Libre Radio, les vrais grands entretiens.
Voilà, alors effectivement, un vrai grand entretien. Celui qui nous occupe maintenant, c'est en compagnie de Yann Forget. Bienvenue à toi, Yann.
Bonjour.
Ravi de te recevoir. Ça fait un moment qu'on a, hein, déjà la semaine passée, on a essayé de faire un petit peu de radio et puis on n'arrivait pas à s'attraper. Alors tu es là parce que tu es par ailleurs un militant pacifiste, que tu as vécu une dizaine d'années en Inde, que tu as rencontré des personnes particulières, que tu as rencontré également des idées, des notions, une philosophie, pourrait-on dire, et que nous avions parlé ensemble, justement, et c'est ce sur quoi tu vas nous entretenir, de cette marche des paysans sans terre à laquelle tu as participé en 2012. Il y a ceci, et puis effectivement également de mouvements pacifistes que tu as pu, dans lesquels tu as pu finalement te balader, que tu as pu traverser. Tu m'as notamment parlé, tu m'as donné ce lien du site du collectif. Comment peut-on appeler ceci ? Est-ce un collectif ? Est-ce une association qui s'appelle Ekta Parishad ?
Alors Ekta Parishad, c'est une fédération de petits paysans et de paysans sans terre. Donc ce n'est pas vraiment un mouvement pacifiste, c'est un mouvement de revendication et d'aide donc, aux personnes donc, démunies en fait, qui vivent dans le monde agricole. Et c'est un mouvement, ce qu'on appelle en anglais « background de grassroots », c'est un mouvement de la base. En fait, c'est un mouvement très très décentralisé, qui est assez important si on compare l'échelle de l'Europe, parce que c'est qu'il y a à peu près 1 million de sympathisants avec à peu près 600 permanents. À l'échelle de l'Inde, bon, c'est pas très très grand, mais ça fait quand même bon, un mouvement qui est présent un peu partout en Inde, dans les campagnes et surtout à côté de populations défavorisées.
D'accord. Alors, on va évidemment parler de tout ceci, mais pour commencer par le commencement, pourrais-tu préciser combien de temps tu as passé en Inde et qu'est-ce qui t'a amené à justement te rendre en Inde ? Et y rester.
C'est une longue histoire.
J'imagine.
Puisqu'en fait, j'ai été en Inde la première fois donc en 1989. Et puis, en fait, une deuxième fois en 1991. Et puis, en fait, j'étais parti pour 3 mois. Et puis, je suis resté 3 ans sans que rien soit prévu au départ. Puis, de fil en aiguille, comme ça, donc je me suis marié là-bas. Et puis voilà, donc j'ai travaillé avec différents mouvements dans le domaine de l'éducation, de l'humanitaire, associatif, dans le domaine du développement.
Mais quel est le déclencheur ? Pourquoi l'Inde et pas le Pakistan ?
En fait, c'est un peu un hasard et D'accord. puis un peu en fait... Alors l'Inde, c'est quand même la plus grande démocratie du monde. C'est un mouvement où un pays où les mouvements sociaux et sont très très actifs, très présents, et ça c'est important. Et j'ai pas été en Inde pour faire du tourisme, j'étais en Inde pour participer à une marche avec une organisation sur place, quoi, une organisation, un mouvement associatif.
Oui, parce que effectivement, nous avions parlé ensemble de ici à la Bibliothèque du Peuple de Gandhi, dont l'idée, enfin, dans la philosophie plutôt, devrais-je dire, évidemment, j'imagine, a compté dans le choix de te rendre en Inde.
Alors en fait, c'est un peu hasard parce que en fait, j'ai rencontré des Indiens ici en France, en Europe, et puis donc ils m'ont parlé de ce qu'ils faisaient là-bas et ils m'ont dit il faut que tu viennes, quoi. Et voilà, donc je suis parti pour les rejoindre un peu plus tard. Et donc c'était un peu hasard, parce que ça aurait été des Brésiliens, je serais peut-être parti au Brésil.
Exactement. Et alors dis-moi, l'Inde, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas un pays, c'est un continent peuplé de plus de 1 milliard de personnes. Alors dans quelle région t'es-tu rendu et pourquoi cette région-là plutôt qu'une autre ? Là aussi, est-ce un petit peu le fruit du hasard ?
Alors effectivement, c'est pareil, ces deux Indiens sont de la ville d'Ahmedabad. Et donc Ahmedabad, c'est aussi la ville de Gandhi. Et donc, en fait, tout ça s'est convergé, effectivement. J'étais déjà très intéressé par Gandhi à l'époque. Je m'intéressais beaucoup au principe de la non-violence, tout ce que ça a un peu impliqué. Et donc, finalement, je me suis dit, il y a un signe, quoi, quelque part. C'est pas un hasard que ces deux personnes soient exactement de la ville de Gandhi. Et donc, ces deux personnes ont travaillé avec une organisation qui est non-violente et qui... essaye de un peu travailler avec les principes de Gandhi, quoi. Donc ça, tout ça m'a beaucoup décidé à partir.
D'accord. Et alors maintenant, voilà, tu arrives en Inde. Qu'est-ce qui, évidemment, plein de choses se passent, mais a priori, quand en Européen, plein, rempli de culture européenne, c'est normal, on vit ça ici tous les jours, qu'est-ce qui émerveille au premier abord et qu'est-ce qui va à l'envers de ça? Qu'est-ce qui nous résigne ou qu'est-ce qui nous touche quand on arrive en Inde? Les premières sensations que l'on rencontre en arrivant en Inde, quelles sont-elles?
Je crois qu'on ne peut pas être indifférent, ça c'est la première chose, c'est que soit on s'intéresse beaucoup, ça plaît, soit ça ne plaît pas du tout. J'ai rencontré aussi des gens qui ont horreur de l'Inde, qui apprécient, alors partent 8 jours après une partie parce que ça ne leur plaît pas du tout, ou alors vraiment c'est un pays qu'on ne peut pas rester indifférent. Dès le premier jour, c'est un pays qui m'a beaucoup touché, j'ai eu des émotions très très fortes sur place, et donc tout de suite je me suis dit waouh, il y a quelque chose, il y a quelque chose pour moi ici, quoi.
Ok. Et puis dis-moi, y a-t-il dans un pays tellement vaste, avec des populations, j'imagine, tellement disparates, différentes l'une de l'autre, y a-t-il un sens commun qui traverse le pays ou qui transcende les différents états de l'Inde? Ou c'est quand même un pays très décentralisé, avec évidemment des particularismes, des traditions très différentes d'un coin de l'autre, ne serait-ce que des usages religieux différents, par exemple?
Ah oui, bien sûr. C'est un pays très, très différent. Il y a plus de différences d'un bout à l'autre de l'Inde que du nord au sud de l'Europe. Il y a par contre des points communs, une façon de concevoir les choses qui est un peu générale d'un bout à l'autre de l'Inde. Une façon de mettre, je pense, la personne au centre des choses plutôt que... Mais bon, comme partout avec la mondialisation, c'est une chose qui est en train de changer, qui évolue beaucoup. Effectivement, depuis le jour où j'étais en Inde, beaucoup de choses ont changé.
Alors, nous allons revenir par la suite, nous allons entrer plus précisément dans cette marche des paysans sans terre. Pour lancer ce sujet-là, peut-on dire qu'en Inde, alors tout le monde a entendu parler de ce système de caste, si j'ai bien compris, qui sont inamovibles ou en tout cas qui sont censés l'être. Alors, peut-on transcender, dépasser, défaire ce système de caste? Et est-ce que l'on peut faire une analogie, si oui laquelle, avec les classes sociales, caste, classe sociale?
Alors, c'est quelque chose de très différent des classes sociales. Donc, parce que les castes sont à l'origine liées à la profession, mais on ne change pas de caste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut changer de profession, mais on ne peut pas changer de caste à l'origine. Puisque la caste est aussi liée au mariage, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas en dehors de sa caste. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les castes sont en train de disparaître. Enfin, en tout cas, en ville, c'est ce qui se passe, ce qui est assez extraordinaire, parce que c'est un système qui a plus de 3000 ans, et qui, je dirais, dans 30 ans, aura disparu.
Ça, c'est le sens de l'histoire, selon toi ? La disparition des castes, elle est inscrite ?
C'est assez rapide en ville, c'est beaucoup plus lent à la campagne, mais c'est effectivement ce qui se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de caste de toutes les professions modernes. Il n'y a pas de caste de chauffeur taxi, il n'y a pas de caste d'informaticien, et donc il n'y a pas de caste d'employé de bureau. Et donc, la caste n'a plus de sens pratique. Et donc ça reste quelque chose, ça devient quelque chose de très abstrait. Et avec l'éducation moderne et tout, maintenant les jeunes ne se marient plus en fonction de la caste, mais en fonction des gens qu'ils ont rencontrés à l'université, de leurs copains, etc. Et donc la génération d'après, la caste a disparu.
Très bien, d'accord. Et puis alors, quant aux classes sociales, peut-on dire qu'elles existent en Inde? Y a-t-il des animosités entre, voilà, je ne sais pas, peut-être une population de syndicalistes, de gens militants, des riches, des nouveaux riches, une ancienne peut-être oligarchie ou une ancienne aristocratie peut-être présente?
Très forte, oui. Il y a d'énormes différences de richesse en Inde, beaucoup plus probablement qu'en Europe d'ailleurs, parce qu'il y a des gens très riches également en Inde, mais il y a également des gens très très pauvres. Et c'est deux mondes qui s'ignorent. Il y a encore plus de... la plupart des gens des villes ne connaissent pas du tout la campagne, n'ont jamais été à la campagne, ont une ignorance totale de ce qui s'y passe. Et à l'inverse, les gens de la campagne ne connaissent pas du tout la ville, ne comprennent pas du tout ce qui s'y passe.
Y a-t-il, tu sais, récemment en France, on a connu ces discussions qui reviennent de manière cyclique sur les bienfaits, avec d'énormes guillemets, de la colonisation, les bienfaits ou les méfaits de la colonisation. Que peut-on en dire de la colonisation britannique en Inde?
Pour moi, c'est le mal absolu, c'est clair. Alors ça, il y a, je dirais, 1% de bénéfices et 99% de mauvais côté.
De méfaits.
De méfaits.
D'accord. Et ça, on en ressent encore maintenant. Ces méfaits-là sont-ils encore prégnants ou bien est-ce qu'on arrive à en sortir également?
Alors, on en sort. L'Inde a beaucoup évolué depuis l'indépendance. Mais il a rattrapé un retard énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 ou 4 siècles, le niveau de vie en Inde était équivalent à ce qu'il était en Europe. Et puis, à cause de la colonisation principalement, le niveau de vie en Inde a diminué alors qu'il progressait en Europe. Quoi. Et donc, l'Inde a dû rattraper le retard depuis un siècle pour revenir à un niveau plus proche de ce qu'il est aujourd'hui en Europe, quoi. En tout cas en ville.
Ok. Et puis dis-moi, alors quel serait, selon toi, bien sûr qu'on ne peut pas être exhaustif ici, on n'a pas non plus des heures et des heures, en tout cas pour cette fois-ci, bien sûr qu'on va pouvoir revenir là-dessus, mais quel serait-il pour toi, brièvement, les enjeux prioritaires de l'Inde contemporaine, de l'Inde maintenant et pour ces prochaines années?
Alors, il y a énormes enjeux, c'est un pays où beaucoup de choses restent à faire, et à la fois c'est un pays qui a une civilisation millénaire. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans ce pays. C'est un pays qui évolue. Quand on regarde, comparant avec l'Europe, on a l'impression que tout est figé ici, alors qu'en Inde, les choses changent et changent très vite. Quoi. À la fois en ville, parce qu'il y a d'énormes changements matériels, d'infrastructures, etc. Et à la fois d'un point de vue social, parce que les gens secouent le vieux système et refusent le système patriarcal, le système des castes, etc. Et ça, ça change. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui sont très actifs et qui refusent les anciens systèmes.
Très bien, ok. Et puis, alors voilà, j'avais une question plus précise concernant justement les enjeux de l'Inde. On a entendu parler un temps, peut-être est-ce encore d'actualité, un peu de la fuite des cerveaux en Inde, notamment pour la Silicon Valley, entre autres, mais aussi pour plein d'autres pays européens qui vont puiser justement cette main-d'œuvre d'intellectuels et qui les rapatrient et qui donc en privent l'Inde.
Alors effectivement, il y a une diaspora indienne qui est très importante, mais enfin l'Inde reste quand même le premier producteur mondial de logiciels. C'est devenu aujourd'hui la première richesse de l'Inde, c'est les cerveaux justement dans le domaine de l'informatique.
Ouais. Un mot concernant le cinéma indien, qui est un cinéma particulièrement tout à fait singulier et qui est extrêmement productif. Ça, c'est quelque chose qui reste une marque. Vraiment, le cinéma indien continue de fleurir un petit peu partout en Inde.
Tout à fait, bien sûr. Ça reste effectivement une industrie très très importante et qui se développe et se propage la culture indienne dans beaucoup de pays.
Très bien. Écoute, alors je te propose encore une question et puis on aura, a priori, bien sûr de manière non exhaustive, on le rappelle, mais brosser un tableau d'ensemble et puis on entrerait ensuite justement dans ces deux axes concernant la marche des paysans et puis les mouvements pacifistes. Mais juste pour faire le lien et avant qu'on écoute, qu'on fasse une petite pause sonore, d'ailleurs je vois ce sera Sinéad O'Connor, sympa, Jackie, hein, Sinéad O'Connor. Mais avant cela, je voulais juste encore savoir et pour faire le lien justement avec la deuxième partie de notre entretien, y a-t-il un réel héritage de Gandhi qui apparaît chez les jeunes générations actuellement, ou est-ce qu'il y a quand même la volonté de dire, bon, Gandhi, on peut aussi en faire la critique, et puis peut-être que maintenant, il faut aller voir ailleurs. Ou est-ce qu'il y a quand même tout le temps quelque chose de fondamental qui appartient à la philosophie de Gandhi?
Alors, c'est très curieux, parce que à la fois, Gandhi est présent partout. Je veux dire, il y a son portrait dans toutes les écoles, dans tous les monuments publics, et à la fois, la plupart des gens ignorent totalement son message. Personne ne tient compte de ce qu'il fait et la plupart des gens ne connaissent pas Gandhi d'ailleurs, à part sa photo. Quoi.
Ouais.
Et donc,
mais ignore l'œuvre, tu veux dire philosophique, voilà, du personnage. D'accord.
Par contre, sa photo est présente partout. Alors, il y a aujourd'hui des mouvements qui se réclament de Gandhi, d'un côté, et puis de l'autre côté, des nouveaux riches, effectivement, ou des gens qui souhaitent un système de développement à l'occidental. Basé sur la mondialisation, développement des richesses matérielles et qui ignore totalement et qui refuse même le système les principes de Gandhi.
Mmh. Un mot concernant sa responsabilité supposée ou réelle dans la partition de l'Inde. Est-ce que tu aurais envie de dire un mot par rapport à ça? Parce que c'est une question à laquelle je voulais en venir plus tard. C'est, y a-t-il en Inde des mouvements indépendantistes qui s'affirment? Bien entendu qu'on pense tous à la création du Pakistan à ce moment-là, mais actuellement aux velléités d'indépendance dans le Cachemire.
Alors, le Gandhi n'est pas l'origine de la partition. C'est en fait les Anglais qui sont l'origine de la partition, qui ont profité des dissensions entre hindous et musulmans, qui ont favorisé ces dissensions pour créer, en fait, ce qui a résulté à créer un chaos total. Et effectivement, donc les musulmans se sont sentis poussés par quelques fanatiques, menacés, parce qu'ils étaient en minorité dans l'ensemble de l'Inde et ont voulu avoir un pays indépendant. On voit ce que ça donne aujourd'hui, 60 ans plus tard.
Quoi. Ouais, c'était bien de rappeler que c'est encore là un bienfait de la colonisation. Merci, la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a-t-il des questions parmi nous à ce point-là de l'entretien ? Pas. Très bien. Petite pause musicale et on revient juste après ça pour les deux axes sur lesquels nous allons nous enfoncer en ta présence, selon ton récit. Donc la partie de la marche des paysans sans terre de 2012 et puis les mouvements pacifistes en Inde contemporaine. On y va avec Sinéad O'Connor, Jackie et puis je le rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Et si tu souhaites, auditrice, auditeur, interroger notre invité, Yann Forget, en l'occurrence, eh bien, tu le fais à l'adresse suivante, info@libradio.org ou alors en te loguant dans Facebook à l'adresse de l'émission La Comète à la Banane. On y va avec un petit coup de musique. C'est parti.
Focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the year. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find.
Quand on gueule sans savoir pourquoi, ça facilite pas la négociation derrière, hein. Bon, alors on la ferme, on reste chez nous, puis c'est tout, quoi. Voilà quoi.
Ah bah non, on va leur foutre 2-3 pierres dans la gueule, on va allumer des incendies. Mais faut pas déconner, ils y sont pour rien.
Libre Radio, la radio pour le principe. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes en compagnie de Yann Forget pour la deuxième partie de cet entretien concernant l'Inde et en particulier la marche des paysans sans terre de 2012 et les mouvements pacifistes contemporains auxquels tu as participé. Alors peut-être pour en revenir et pour faire le lien avec ce qu'on disait dans la première partie, voudrais-tu rappeler, parce qu'on l'a dit juste là en off, l'espérance de vie en Inde, voilà, c'est quelque chose d'assez singulier parce que, et là je te laisse la parole, parce que quoi ?
Donc, pour expliquer un peu le problème de développement et la colonisation en Inde, donc en fait, il y a 3 ou 4 siècles, l'espérance de vie était équivalente en Europe et en Inde. Et il y a un siècle, en 1900, l'espérance de vie en Europe avait monté aux alentours de 60-65 ans, alors qu'en Inde, elle avait diminué à autour de 20 ans.
Voilà, donc ça, c'est également là aussi quelque chose de... qui gagne à être connu. Et voilà, c'est pour ça que je voulais, puisqu'on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, et je trouve que c'est bien qu'on recommence avec ça, pour maintenant expliquer pourquoi, eh bien, en Inde, les gens se révoltent. Ils se révoltent par ailleurs d'une très belle façon, puisque ce sont des mouvements pacifistes, mais pas que, parce que des fois, le simple pacifisme ne suffit peut-être plus, et que voilà, certaines personnes se mettent en route, comme lors de la marche des paysans de 2012. Alors peut-être voudrais-tu expliquer comment est-elle née, cette marche des paysans sans terre ?
Oui, donc il faut rappeler un peu l'histoire d'Ekta Parishad. Donc c'est un mouvement qui est né donc officiellement il y a 25 ans. En fait, qui a été créé par Rajagopal, donc qui est quelqu'un qui est d'origine du sud de l'Inde, du Kerala. À l'origine, il est ingénieur agronome et c'est quelqu'un très simple qui est intéressé par Gandhi. Et puis un jour, on lui dit, mais c'est bien joli les idées de Gandhi, mais en pratique, à quoi ça sert, quoi ? Et puis, il s'est dit, bah ouais, il faudrait peut-être qu'on mette en pratique ça. Et donc, dans les années 70, donc 70, il a fait en sorte que des bandits, donc qui étaient dans le centre de l'Inde, dans une région de Champal, rendent leurs armes et... acceptent de se combattre, donc la misère, non plus par les armes, mais par la non-violence.
Ok, alors c'est né comme ça. Ok, et puis alors en 2012, on en était arrivé. Enfin, pardon, oh là là, je recommence tout. En 2012, était-ce la première de ces marches-là qui débutait ?
Alors non, il y a eu beaucoup d'autres marches. Alors des marches régionales, locales, de très nombreuses. Et puis au niveau national, il y a eu en 2007 une grande marche avec 25 000 personnes. Entre Gwalior et Delhi pendant un mois. Donc cette marche a eu un succès relatif puisqu'ils ont réussi à changer la loi pour l'attribution de la terre.
Très bien. Alors, ça, tu en sais un peu plus concernant justement cette loi-là ? Comment elle a changé ?
En fait, la loi précédente datait de la colonisation britannique, justement, était peu favorable aux paysans. Et ils ont fait en sorte que les paysans aient la priorité dans l'attribution des terres. Et en cas de dispute, ils aient la priorité. Quoi.
D'accord. Et alors, comment se passent ces marches ? Donc, les personnes partent d'un point A à un point B. Elles font un circuit qui est prédéterminé. Est-ce que c'est un circuit qui est fabriqué, produit à dessein, parcouru pardon à dessein? Est-ce qu'on fait des étapes justement qui sont des étapes symboliques ou pas?
Alors les gens viennent un peu partout de l'Inde hein, d'abord, donc des fois ils voyagent pendant 2 ou 3 jours avant d'arriver au point de départ, en bus, en train, etc. Et puis donc les 25 000 personnes, et puis de nouveau en 2012, le trajet était le même, uh-huh. Donc sur de Gwalior à Delhi. En fait, ils choisissent ça parce que c'est une grande autoroute, donc il y a déjà la place, parce qu'il faut qu'il y ait la place pour que tout le monde marche. Et puis, donc c'est en direction de la capitale, et puis c'est central par rapport au reste de l'Inde. Quoi.
D'accord, et puis j'imagine que c'est une organisation incroyable. Comment est-ce qu'on organise le ravitaillement? Comment est-ce qu'on produit la communication? Toutes ces choses-là.
Ah, c'est une organisation absolument gigantesque. Donc en 2012, il y a presque 100 000 personnes qui ont marché.
100 000, ouais.
Et donc c'est des dizaines de camions de nourriture, de riz et de farine et d'huile, etc. Pour ravitailler tous ces gens-là. Donc ce sont des paysans, des petits paysans et des paysans sans terre qui viennent. Donc ils n'ont rien. Et pour eux, c'est une question de survie.
D'accord, mais le financement, comment est-ce qu'on a...
Alors, le financement est fait par des dons, en partie en Inde et en partie de l'étranger. Donc, en particulier à Genève, il y a un mouvement de soutien qui a financé une partie des paysans, soutenu les paysans pour la marche, en organisant des mouvements, des activités de fundraising et de soutien ici.
Ok, et alors voilà, d'étape en étape, les personnes s'arrêtent, passent une nuit... Un point organisé, mais en plein air ou...
Alors, les gens dorment dehors, sur la route. Hein. Donc, les gens partent avec leur petit baluchon. Ils ont en général une couverture et c'est tout. Et ils dorment sur la route.
Et combien de temps prend une marche en général?
Et donc là, ça prend un mois.
C'est spartiate.
C'est très, très spartiate.
J'allais dire, c'est presque des héroïnes et des héros.
Mais pour les gens, c'est souvent... Ils nous disent... qui mangent mieux pendant la marche que chez eux.
Carrément, d'accord. Et dis-moi alors, de manière, disons, relative, hein, comme tu le peux, mais quelle est la composition sociologique des marches? Je veux dire, j'ai bien compris que ce sont des paysans, donc des personnes qui sont dans le plus grand dénuement, mais est-ce que ce sont plutôt quand même les garçons en forme qui la font, jeunes adultes, ou est-ce qu'il y a vraiment la famille qui se met...
Il y a tout le monde. Et alors, Ekta Parishad, qui est l'ordinateur, insiste pour qu'il y ait une parité et que donc il y ait, si possible, pratiquement autant de femmes que d'hommes.
D'accord. Et dans la classe d'âge, on essaie quand même d'éviter les personnes trop...
Alors, dans la classe d'âge, Ekta Parishad demande que dans chaque village, il sélectionne un nombre de personnes qui peuvent physiquement se déplacer. Donc, c'est chaque village qui décide et il demande qu'il y ait une parité donc entre les hommes et les femmes. Donc, des hommes entre... des femmes entre 15 et 50 ans. Quoi.
Ok, et dis-moi, alors comment ces personnes-là sont accueillies dans leur ville-étape? Et deuxième volet de la question, de quelle manière est-ce que les médias en parlent en Inde et à l'extérieur de l'Inde?
Alors, l'accueil est généralement très positif, surprenant, parce que les villes qu'on traverse sont des gens des villes qui ne connaissent pas du tout le monde de la campagne. Pour eux, ce sont aussi étrangers que des martiens.
Oui.
Ces paysans qui débarquent, qui viennent d'un village très, souvent très loin. Mais pourtant, la plupart du temps, l'accueil est très positif. On est reçu souvent par des écoles, donc localement, l'accueil. Et les gens donnent beaucoup. On donne des dizaines de kilos de riz et de produits pour aider les marcheurs.
Et ce sont des cuisines mobiles, du coup, qui suivent.
Exactement. Et donc, chaque une cuisine mobile est organisée chaque étape.
Est-ce qu'il y a des, quand même, en termes sanitaires, est-ce qu'il y a quand même des problèmes à chaque marche?
C'est un gros travail, c'est-à-dire que tous les jours, ils creusent des toilettes sèches pour l'ensemble des marcheurs. Quoi.
Et des médecins sont présents également tout
alors,
au long de la marche.
On a à chaque fois des ambulances avec des médecins qui accompagnent les marches et qui soignent. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Parce qu'évidemment, déjà, ils ne sont
un
pas toujours
entier,
très bonnes
un
mois entier en vivant sur le bord de la route. Quoi.
Et alors, qu'en est-il des médias locaux, je veux dire nationaux en Inde, et des médias internationaux ? Est-ce que c'est relayé d'une part ? Et si, comment ça l'est, relayé ?
Alors, en 2007, il y a eu quelques médias qui ont relayé, mais on a eu beaucoup de mal, en fait, à avoir des médias au départ. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un accident. Il y a un camion qui a renversé, qui a tué 3 personnes pendant la marche. Et donc, suite à ça, en fait, d'une façon tragique, les médias sont réveillés et ont se mis à couvrir l'événement. Et puis, en 2012, ça a été beaucoup plus positif. Et là, il y a eu des médias, non seulement partout de l'Inde qui ont couvert, mais aussi beaucoup à l'étranger.
Ok. Alors, justement, y a-t-il eu des reportages ? Typiquement, tu vois, un reportage d'un, je sais pas, du monde diplomatique, du courrier international.
On a eu des grands journaux qui ont fait des reportages et il y a eu plusieurs films qui ont été faits, notamment en Suisse, sur la marche de 2012.
D'accord, donc là on voit quand même une évolution qui va plutôt dans le bon sens.
Exactement. Oui.
Bon, bah, ça c'est déjà ça, parce qu'au bout du compte, c'est un petit peu ça aussi qui est l'objectif de ces marches, c'est de sensibiliser tout le monde à cette situation. Très bien. Écoute, tu y retourneras ?
Bien sûr.
Tu as déjà prévu une date ? Ah oui, mais tu voulais déjà y retourner cette année ?
Oui, alors j'ai prévu de retourner. Bon, j'ai empêché pour des raisons familiales, mais effectivement, je prévois de retourner. Le plus tôt possible.
Et quand on sait qu'on va le faire, comment est-ce qu'on s'y prépare ? Est-ce qu'il faut déjà physiquement, il faut quand même être là ? Et puis après, est-ce que mentalement, il faut quand même se préparer un petit peu ? Est-ce que je veux dire, tu y vas et tu t'inscris et c'est parti ? Ou est-ce qu'il y a une certaine gestion de ces départs ?
Alors, quand on va, c'est très dépaysant parce que le mode de vie des gens sur place est vraiment très très différent de ce qu'on fait ici. Effectivement, c'est un choc culturel très important. Donc, pendant plusieurs années, en fait, mon travail a été d'accompagner des Européens, en particulier des Français et des Belges, qui sont venus en Inde pour rencontrer des gens là-bas et de servir d'interprète et de guide. Et donc, mon travail était de faire un peu l'interface culturelle et linguistique entre les gens. Et c'est, pour la plupart des gens, c'est un choc très, très fort quand ils arrivent en Inde et parce qu'on va vivre chez l'habitant, on loge dans des villages où les conditions sont très spartiates.
Ok, et puis dernière question avant qu'on parle à proprement parler plutôt des mouvements pacifistes que tu as rencontrés. Là, de la même manière que je te demandais tout à l'heure quel était l'émerveillement ou la déception pour un Européen qui arrive en Inde, comment est-ce que tu es reçu au sein même de la marche parmi des paysans sans terre qui voient débarquer un Européen blanc voilà, moyen, j'ai envie de dire, dans le sens moyen, dans les critères que l'on connaît. Est-ce que ces personnes-là sont dubitatives ou est-ce qu'au contraire, elles t'accueillent plutôt avec beaucoup de plaisir en disant, voilà, c'est une personne relais également qui va pouvoir parler de cette marche ?
À la fois, les gens sont très, très accueillants. Il y a un sens de l'hospitalité extraordinaire. Et à la fois, les gens ne sont pas naïfs. Et souvent, les gens se disent, oui, bon, il va venir 3 semaines chez nous et puis il va rentrer chez lui. Quel impact il aura sur le truc ? Les gens sont... Même s'ils ont souvent une éducation qui est très sommaire, les gens ont une conscience, un éveil politique qui est absolument incroyable par rapport à leur connaissance en fait, des choses. Ils comprennent très bien que... donc, il faut faire ses preuves, quoi. Il faut montrer qu'on est là pour les aider et pas seulement en touriste.
Et ça, de quelle manière est-ce que ça se fait ? Dans cet engagement
petit,
au quotidien ?
Petit à petit, en parlant avec eux, en montrant ce qu'on fait, en leur expliquant ce que moi je fais, ce que j'ai envie de faire, ce que je pense... Petit à petit, les gens comprennent, mais ça prend du temps.
Et là, as-tu rencontré, avec des très grands guillemets, des pères, P-A-I-R-S, à toi, c'est-à-dire des personnes qui, comme toi, venaient de régions lointaines pour participer à cette marche-là, où tu restes une exception ?
Je pense que je suis assez une exception en sens que je parle couramment hindi et que j'ai vécu longtemps en Inde. Mais bon, effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes un peu du monde entier. Il était à maintenant des soutiens partout en Europe et aussi au Canada, au Brésil, un peu partout en Asie aussi.
D'accord.
Et
pardon.
Donc, en fait, c'est l'important du mouvement, c'est que ça devient un mouvement international, alors que c'était un mouvement purement indien au départ.
Ça veut dire que l'anglais permet également d'interagir ?
Tout à fait, bien sûr. La plupart des communications se font en anglais.
Ok. Dernière question pour cette partie-là. Comment est-ce qu'on peut soutenir depuis ici la Suisse ? Ce type de mouvement, la marche. Alors,
on peut soutenir, effectivement. On a donc un groupe de soutien à Genève. On organise des événements régulièrement. Et donc, par exemple, l'année dernière, au mois de juin 2016, on a organisé un événement à Genève avec des musiciens et des danseuses indiennes pour récolter des fonds et soutenir ce mouvement.
Très bien. Je te remercie pour cette première partie. Ah, y a-t-il peut-être encore un site internet que l'on pourrait rappeler ? Peut-être celui d'Ekta Parishad ? Alors, j'ai l'adresse sous les yeux. Donc, c'est www.ektaparishad.com. Je vais épeler Ekta Parishad. ektaparishad.com. On mettra le lien de toute façon sur le site de Libre Radio. D'autres liens que tu pourrais donner ?
Oui, alors, si des gens voulaient rendre visite en Inde. Donc on a un partenariat avec une organisation qui est basée en France, à Nantes, et qui organise des séjours en Inde chez l'habitant, donc des séjours qui durent de 15 jours ou 3 semaines. Et donc le site c'est tamadi.org, donc tamadi.org.
Très bien. Voilà, alors je te remercie. Je propose que l'on fasse une petite pause musicale pour que l'on reprenne notre souffle, à moins qu'il y ait des questions parmi nous. Non. Et puis juste derrière, on parlera plutôt justement des différents mouvements pacifistes que tu as pu recenser au travers de tes aventures en Inde. Est-ce que je pourrais t'interroger ? On avait passé à l'époque un extrait musical d'une quinzaine de minutes sur Fulan Devi. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pertinent pour toi que l'on en parle quelques instants ou pas tant que ça ?
Fulan Devi était un exemple extraordinaire parce que c'est donc une personne qui est partie très très bas et qui est arrivée à être élue au Parlement à Delhi. Donc c'est vraiment assez peu ordinaire et puis c'est un exemple à suivre.
Voilà, donc on peut dire que c'est, j'allais dire presque icône, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Mais en tout cas une personne de laquelle on peut prendre exemple.
Tout à fait.
Voilà. Très bien, on en reparlera quelques instants tout à l'heure. Juste avant ça, on va s'écouter Perfect Day, Lou Reed. Ça va nous lancer sur la deuxième partie de cet entretien concernant les mouvements pacifistes contemporains en Inde. Je le rappelle encore une fois, pour nous contacter, pour interroger notre invité Yann Forget, à l'adresse, tu le fais, tu nous fais un message à l'adresse suivante, info@libradio.org, ou alors via la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane. C'est parti avec Perfect Day, Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. All left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
To read just.
soul. You're going to reap just what you sow.
Nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec Yann Forget. Je te remercie d'ailleurs pour tout ce que tu viens de nous expliquer. C'est fort intéressant et c'est vrai que c'est une réalité complexe. L'Inde étant un pays et un continent de plus d'un milliard d'habitants, composé de différents États, je ne sais pas à quel nombre d'États, combien y en a-t-il, mais un certain nombre. Et c'est vrai que les situations sont du coup très complexes.
Oui, effectivement, il y a 26 États plus, et encore beaucoup de petits territoires en Inde, avec des disparités sociales et économiques très très différentes d'un bout à l'autre. Mmh. Effectivement, chaque État en plus a sa propre langue, des différences culturelles aussi.
J'imagine des codes qui ne sont pas les mêmes.
Tout à fait. Et puis différentes religions. Il y a aussi une majorité importante de musulmans en Inde, ce qui aussi complique encore une chose.
Alors, dans un pays aussi complexe que ça, on aurait pu se dire, voilà, nous connaissons le terme balkanisation d'un conflit, nous connaissons la problématique du Proche-Orient. Finalement, le Proche-Orient, c'est quelques pays avec quelques millions d'habitants. Comment se fait-il, alors que dans ces lieux-là, une violence extrême est apparue, comment se fait-il que dans un continent de plus d'un milliard d'habitants, eh bien, la non-violence ait autant de prise et que des mouvements entiers sociétaux, eh bien, l'affirme et l'emprunte comme moyen de lutte.
En fait, si ça se trouve, c'est probablement le principal héritage de Gandhi aujourd'hui, c'est que l'Inde est une démocratie. Et c'est la plus grande démocratie du monde. La presse, par exemple, est très active et très vivante en Inde. Il y a beaucoup de mouvements sociaux dans toutes sortes de domaines et qui sont très actifs. Et il y a vraiment un processus démocratique réel en Inde, quoi.
D'accord.
C'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres pays.
D'accord. Y a-t-il quand même... Alors, il y a des zones, j'avais envie de dire des zones d'ombre. On sait qu'il y a des zones qui sont un peu plus délicates, un peu plus conflictuelles. Je pense notamment, effectivement, au Cachemire. Il y a certainement d'autres zones de frottement. Mais effectivement, j'ai l'impression que cet héritage de Gandhi transcende même les religions, parce que là, finalement, on entend ici ou là que souvent des communautés utilisaient la religion comme alibi, certainement comme prétexte pour aller se frotter, et puis plus que ça, même avec d'autres communautés. Mais j'ai l'impression qu'en Inde, qui est justement un pays qui est multiconfessionnel, on transcende ces différences-là pour arriver à une lutte pacifiste.
Oui, effectivement, il y a un peu de ça. Gandhi est effectivement très, beaucoup de relais aussi bien avec les musulmans qu'avec les hindous. Je pense que c'est probablement l'héritage principal. Donc il y a, en fait, l'héritage de Gandhi de façon très pratique est assez difficile à percevoir. Il existe, mais le nombre de mouvements qui existent aujourd'hui par rapport à ce qui existait avant l'indépendance est en fait faible. Mais de plus en plus, il y a des mouvements qui se réclament de Gandhi,
voilà,
et qui l'utilisent pour les problèmes de droits de l'homme, discrimination et de droit à la terre, par exemple.
Oui, alors voilà, c'était le sens de ma question qui allait suivre. C'était qui s'en réclame ? Y a-t-il également des mouvements hindouistes et des mouvements musulmans ? Ou c'est plus des mouvements de la société civile, je dirais laïque, qui s'en réclament ? Ou c'est un petit peu paritaire et un petit peu tout ?
Alors, Ekta Parishad est un mouvement absolument laïque, bien que du fait des gens qui touchent, en fait, il y a quand même peu de musulmans qui sont concernés, puisque les principaux personnes qui sont membres et bénéficiaires de l'action d'Ekta Parishad, ce qu'on appelle les adivasis, c'est-à-dire des indigènes, ce sont les premiers habitants de l'Inde. Et donc, ce sont aussi ceux qui ont été oppressés par différentes envahisseurs, en fait, au fil des millénaires, des siècles et des millénaires, et qui se sont retrouvés souvent cantonnés dans des réserves, si on peut presque dire ça, des zones rurales reculées, et qui aujourd'hui se réveillent et se disent « Non, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas aussi les droits comme tout le monde. »
Très bien. Et tout ça dans ces modalités pacifistes.
Voilà, exactement. J'aime pas trop le mot pacifique, je préfère non-violent.
Non-violent, oui. Voilà. Alors pourquoi, tiens?
Parce que ils sont actifs. Pacifistes, ça fait plutôt penser à passif. Donc ce sont des mouvements très actifs qui organisent beaucoup d'activités, mais toujours dans le respect de la personne.
Effectivement, c'est vrai qu'à l'époque du CLMK ici à Lausanne, le centre Martin Luther King, on parlait déjà de non-violence active. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Non, alors effectivement, en tout cas, dans ma tête, il n'y avait pas l'idée de passivité dans le mot pacifisme, mais usons le mot non-violence pour préciser qu'effectivement, c'est de la non-violence active dont il s'agit. Dis-moi, aurais-tu une opinion par rapport à, ou en tout cas, une observation quant à l'État islamique? Penses-tu que ce type d'organisation, avec son cortège de violence, pourrait s'implanter en Inde, dans un pays qui, justement, arrive peut-être à ne pas finir par ces actes jusqu'au boutistes et funestes de la violence? Est-ce que, culturellement, l'Inde est peut-être immunisée contre quelque chose comme l'État islamiste, selon toi?
Alors, je me prononce pas aussi absolument, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une culture démocratique, comme je disais encore, et que la première contestation se fait toujours de façon par les urnes et par les presses, par des démonstrations, des manifestations. Donc, après tout. Après, aujourd'hui, il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle les mouvements naxalites. Ce sont souvent des paysans qui ont pris les armes parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, qui étaient opprimés dans des régions où il y a une disparité sociale, économique très, très importante. C'est par l'exemple du Bihar, par exemple, dans le centre de l'Inde, la vallée du Gange, où il y avait quasiment un système d'esclavage il y a quelques dizaines d'années, et les paysans sont révoltés contre ce système-là et ont pris des armes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça crée une violence, donc le gouvernement utilise cette violence-là pour réprimer encore plus les paysans.
Oui, je comprends. Du coup, est-ce qu'il y aurait, selon toi, une forme de modèle des luttes sociales non violentes en Inde qui pourrait être importé, exporté pour eux et importé pour nous, pour peut-être justement lutter contre ce qui se passe ici en Occident en ce moment, avec cette tension que l'on perçoit comme montante, comme de plus en plus dure, de plus en plus brutale?
Oui, je crois que l'État Parishad est très intéressant à ce point de vue-là, parce que non seulement c'est un mouvement social très actif dans leur lutte, mais c'est aussi un mouvement qui arrive à dialoguer avec le pouvoir sans jamais se compromettre. C'est très, très intéressant. Ils ont une expérience et une force très importante là-dessus. Alors, ils arrivent toujours à éviter l'affrontement et à créer des manifestations de masse très, très importantes sans aller jusqu'à l'affrontement.
C'est-à-dire que plus qu'un mouvement de décolonisation, il s'agirait pour nous de pratiquer une sorte de contre-colonisation et d'apporter finalement de ce modèle de rapports sociaux, certes actifs, mais également non-violents, qui ont cours en Inde. Ça pourrait être quelque chose parmi les solutions pour l'Occident.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Ektar Farshad a compris que la non-violence, ça s'apprend. C'est pas du tout quelque chose d'inné. Et donc, une grosse partie de leur travail, c'est d'organiser des formations. Et donc, pour accompagner plusieurs dizaines de milliers de personnes, il faut aussi quelques milliers de personnes qui font partie d'encadrement. Et donc, c'est pour ça qu'ils demandent énormément de travail de préparation, de formation à des cadres villageois, des leaders villageois, qui vont encadrer ensuite ces dizaines de milliers de personnes qui vont prendre la route pour demander respecter leurs droits.
Mmh. Alors, en tout cas, de notre côté, ce que l'on souhaiterait faire, et ça, je réfléchis tout haut, mais je pense qu'il y aurait des analogies à faire avec la marche pour la paix des Bosniaques, qui n'est pas évidemment composée que de Bosniaques, mais dont le dessin est celui-ci également, de parcourir d'une certaine manière une géographie, disons, du drame, de la terreur, de la guerre, pour la transformer en géographie, en cheminement de paix. Ce serait peut-être, il y aurait là peut-être quelque chose de matière à faire des analogies, à faire des rencontres intéressantes entre cette marche et puis ces mouvements de non-violence active en Inde. Et puis ici, en tout cas, c'est quelque chose qui reste à développer en Occident et en Europe notamment. Je te remercie beaucoup. On arrive tout doucement au terme de cet entretien. J'aurais juste encore envie, peut-être si tu souhaitais dire quelques mots concernant justement Phoolan Devi, que l'on a abordé avant, peut-être en quelques minutes raconter un petit peu l'histoire de cette personne singulière, et puis et puis ou une autre fois.
Oui, ce que je voulais, c'est qu'en fait, dire que le mouvement prépare de nouvelles actions.
Oui, ah, pardon.
Et donc, en raison. 2020,
dis-moi.
Il est prévu d'avoir une marche qui parte de l'Inde et qui vienne jusqu'à Genève. Donc, à Genève, parce qu'évidemment, c'est le centre des organisations internationales telles que l'ONU et l'Organisation mondiale du commerce qui ont un rôle très important dans ce qui se passe, en fait, localement en Inde. Et donc, Ekta Pachal se rend compte que protester localement, ça ne suffit pas, et qu'il faut changer le modèle de développement économique et social d'un point de vue global. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'organiser cette marche entre l'Inde et Genève, donc qui partirait en 2019 de l'Inde et pour arriver en octobre 2020 à Genève. Quoi.
Très bien. Alors, en fait, j'aurais voulu conclure avec justement ces informations-là et quelques liens que l'on pourrait donner, que l'on a déjà donné. Alors, on va déjà noter ça à l'agenda 2019, une marche partirait de l'Inde. On sait déjà le parcours initial de cette marche ?
Alors, évidemment, il faudrait traverser le Pakistan et l'Afghanistan, ce qui est très difficile et peut-être pas possible. Mais ce qui est déjà très probable, c'est qu'on puisse partir de l'Azerbaïdjan ou de l'Arménie pour venir jusqu'à Genève.
Ok, et ça, on peut se tenir au courant de quelle manière ? Sur le site d'Ekta Parishad, par
voilà,
exemple ?
Voilà, sur le site d'Ekta Parishad. Et sinon, il y a un site Jejagat.
Ok, alors voilà, on va rappeler encore ektaparishad.com et puis tamari.
Tamadi.org.
Tamadi.org également. Et puis nous, ben, on continuera d'alimenter ces discussions. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas en rester là, Yann Forgès, certainement pas. Donc nous allons évidemment continuer cette discussion puis aller plus dans le détail parce qu'effectivement, il nous faudrait des heures, mais on va les prendre ces heures de toute manière. Donc voilà, on en reparlera quoi qu'il en soit. Peut-être quelques mots alors quand même, finalement, sur Fulan Devi.
Fulan Devi est un exemple très intéressant d'ascension sociale. Et d'une personne qui est partie de très très bas et qui a rejeté sa condition et qui a finalement réussi à devenir une icône de la contestation,
ouais.
Même si elle n'est pas du tout non-violente.
Non, effectivement, là c'est une autre forme de lutte, effectivement. Écoute, je te remercie beaucoup, Yann Forget, pour toutes ces informations concernant la marche des paysans de 2012 à laquelle tu as participé, concernant les mouvements pacifistes que l'on a à peine finalement amorcés, mais sur lesquels arguments nous allons revenir. Merci à toi et puis à la prochaine de toute manière.
Merci beaucoup.
Alors nous, on va faire une toute petite pause musicale et puis juste derrière, notre troisième invité qui, s'il me semble, j'ai aperçu, hein, qui est là, voilà, oui, voilà. Donc une petite pause musicale et puis juste derrière, nous allons parler, c'est la troisième et dernière partie de l'émission avec les Cendres Landpoot. Allez, on y va avec Mind Fields, c'est Prodigy, c'est parti.
This is dangerous. I walk through my ears and watch your head rock.
walk through my fields, yeah. Shut up.